RCF. Bienvenue dans l'émission Neveu Droné, Chemin de pensée, pour une émission un petit peu particulière, puisqu'il s'agit de la première partie d'une interview de Solène Bardet, qui est une spécialiste du peuple Imba, peuple premier qui vit en Namibie et dont nous avons déjà un peu parlé dans nos émissions précédentes. Comme la discussion a été très riche et donc assez longue, nous vous proposons de l'écouter en plusieurs parties. La première partie, diffusée aujourd'hui, présente plus en détail le peuple Imba, son origine, sa façon de vivre, ses croyances, son organisation, mais aussi son rapport avec notre société moderne. Tous ces éléments nous permettront de développer par la suite des pistes de réflexion philosophique, notamment suscitées par les différences fondamentales entre cette société et la nôtre. Je vous laisse donc en compagnie de Solène Bardet.
Chemin de pensée sur RCF.
Bonjour Solène.
Bonjour.
On peut dire que vous êtes une vraie aventurière. À 18 ans, vous partez explorer l'Afrique du Sud et vous vous retrouvez au nord-ouest de la Namibie pour faire connaissance avec le peuple Imba. Vous avez raconté cette aventure assez extraordinaire dans votre très beau livre Pieds nus sur la terre rouge aux éditions Lafon. Alors, pouvez-vous nous présenter en quelques mots le peuple Imba et les liens particuliers que vous avez avec eux ?
Alors, les Imba sont des éleveurs semi-nomades qui habitent au nord-ouest de la Namibie. Les Imbas font partie du groupe des Herero, qui est un peuple de langue bantoue originaire de l'Afrique des Grands Lacs. Les Herero seraient arrivés au sud de l'Angola à peu près en l'an 1000. Au XVIe siècle, ils traversent le fleuve Kunene, qui fait aujourd'hui la frontière entre l'Angola et la Namibie. L'essentiel des Herero descendent jusque vers le centre de la Namibie, s'installent là sur les hauts plateaux, et une petite partie d'entre eux reste en arrière, au nord-ouest, dans ce qui est aujourd'hui le nord-ouest de la Namibie, région qu'on appelle le Kaokoland, et c'est ce petit groupe-là qui deviendra plus tard les Imba. Imba qui veut dire mendiant, parce qu'au milieu du 19e siècle, en fait, les Nama, un autre groupe d'éleveurs, avaient volé toute une partie de leur bétail. Et ceux qui sont devenus les Imba donc, sont allés se réfugier en Angola, où pendant plusieurs années, ils sont devenus chasseurs, cueilleurs, où ils ont mendié de la nourriture. Et donc, on les a appelés Imba, les mendiants.
D'accord. Ouais. Et donc, vos liens, pardon, avec eux ?
Et moi, en fait, eh bien, j'ai eu la chance d'arriver là-bas en 93. Alors, ce n'était pas prévu du tout. Moi, je rêvais de partir toute seule en Afrique depuis toute petite. C'est un peu le hasard. J'ai trouvé un billet d'avion Luxembourg, Johannesburg, valable un an, pas cher. Donc, c'est pour ça que je suis arrivée à Johannesburg. Ensuite, de fil en aiguille, de rencontres, en stop, je me suis retrouvée en Namibie. Et là, j'ai rencontré un jour quelqu'un qui m'a montré des photos de Imba. Et je me suis dit, ah oui, c'est là que j'ai envie d'aller. Et en fait, je ne le savais pas encore, mais jusqu'en 92, les Imba avaient besoin d'un permis spécial pour quitter leur région, et leur bétail aussi surtout, et il fallait un permis spécial pour rentrer dans leur région. Ça, c'était pour protéger l'économie des fermiers blancs, pour que le bétail des Imba ne concurrence pas le bétail des fermiers blancs. Et puis, bah, surtout, parce que jusqu'en 90, en fait, la Namibie était le sud-ouest africain, sous protectorat sud-africain. Donc, avec apartheid, on ne se mélange pas, etc. Et donc, moi, en arrivant en 93, en fait, je suis arrivée, c'était la première année où on pouvait entrer dans le Kaokoland librement, sans permis. Et j'ai appris plus tard que j'étais la première blanche à partager leur vie depuis les années 20. Alors, ils voyaient des blancs, ils voyaient des fonctionnaires sud-africains qui sillonnaient la région, qui donnaient un peu d'aide alimentaire, qui réparaient les puits, mais qui ne se mélangeaient pas, voilà, surtout. Et ça a fait que très vite, en fait, au bout d'un mois, j'ai été adoptée et j'étais accueillie vraiment comme jamais j'aurais pu imaginer. Je serais arrivée un ou deux ans plus tard, ça n'aurait pas été du tout la même chose. J'ai eu la chance d'arriver vraiment à la période où la région commençait tout juste à s'ouvrir. Donc voilà, au bout de quelques mois, j'ai vu arriver les premiers touristes, les vendeurs d'alcool, les missionnaires. Mais c'était vraiment le tout début.
Et donc après, au fur et à mesure, enfin les années suivantes, vous y êtes retourné et depuis, vous y allez régulièrement, si j'ai bien compris.
Oui, donc ça fait en 93, ça fait 24 ans
Voilà.
déjà. Donc les 4 premières années, j'y passais 6 mois par an. Après, j'ai fait une pause pendant 9 ans, j'y suis pas allée. Et puis depuis 2006, en fait, j'y retourne tous les ans.
Et alors, ce qui est intéressant justement, c'est que donc tous ces liens que vous avez tissés avec ce peuple, vous les avez illustrés dans une BD qui s'appelle Rujimba, que vous avez réalisée avec Simon Hureau, et qui vient de sortir justement en novembre dernier, donc qui est très intéressante. Hein. Alors, c'est un volume assez important, hein, plus de 300 pages. Mais ce qui est vraiment bien dans cette BD, c'est qu'elle illustre aussi tous les aspects de la vie en fait des Himba.
Oui, c'est un projet que j'avais depuis longtemps. Enfin, j'avais encore beaucoup de choses à dire sur les Himba, puisque mon livre Pieds nus sur la terre rouge date de plus de 20 ans. Donc évidemment, en 20 ans, il s'est passé beaucoup de choses et j'ai appris beaucoup de choses. Donc j'avais beaucoup de choses à partager. Moi, j'avais déjà fait un film. J'adore ce support-là, mais on ne peut pas non plus trop en dire dans un film. Donc là, il fallait que je passe par le livre. Et c'est vrai qu'avec les Himba, c'est quand même difficile de se passer de l'image. Parce que leur mode de vie est quand même tellement différent de nous. Et le fait de passer par le dessin me plaisait bien parce que, quelque part, c'est plus franc. On sait que c'est pas la réalité. Alors qu'avec une photo, c'est toujours plus compliqué, je trouve. Voilà. Et puis, donc j'ai mis plusieurs années avant de tomber sur Simon Hureau, enfin, avant de trouver le dessinateur vraiment que je voulais emmener. Et après, au début, on ne savait pas trop ce qu'on voulait faire. On a pas mal tâtonné. Au final, ça a donné ça. Donc, une espèce d'ovni. À la fois, il y a une histoire, il y a des personnages, je crois, auxquels on s'attache. Et en même temps, c'est aussi devenu une espèce d'encyclopédie sur les Himba. Voilà, où j'espère, en le lisant, on apprend tout ce qu'il y a de vraiment important à apprendre sur les Himba.
Oui, alors effectivement, ce qui est intéressant, c'est que les Himba n'ont pas développé d'écriture propre. Et du coup, quel est le rapport ils entretiennent avec leur propre histoire?
Oh ben, c'est une culture orale, hein, comme la plupart des. Enfin, comme énormément de sociétés africaines. Les choses se transmettent le soir au coin du feu et se répètent. Mais c'est vrai que culture orale, ça veut dire aussi culture vivante. Par exemple, pour les cérémonies, une cérémonie de mariage, tiens par exemple, moi j'ai pas vu un mariage qui ressemblait à un autre. Et en général, il y a toujours un moment au cours de la cérémonie où un tel va dire, mais non, c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça. Et un autre qui arrive et qui dit, mais vous avez oublié telle partie du rituel. Et en fait, en fonction de quel mariage ceux qui
Quelles personnes sont
officient
là,
ont
oui.
assisté, ils ont retenu les choses de manière différente, etc. Donc oui,
C'est
c'est
très
ça
vivant, quoi.
qui est assez magique d'ailleurs, c'est que tout est en constante évolution. Les Himba, parce qu'ils sont encore vêtus d'ocre et de graisse, que les femmes sont à moitié nues avec 15 kilos de bijoux, beaucoup de gens ont l'impression qu'il y a quelque chose de figé, que c'est comme ça depuis des siècles et des siècles. Mais pas du tout. Moi, dans l'espace de 1, 2, 3 ans, je vois qu'il y a des choses très importantes qui bougent et apparemment ça a toujours été le cas, quoi.
D'accord. J'aurais aimé justement vous poser une question concernant les rapports entre eux, en fait, les rapports humains. Parce que parfois, on s'imagine que des gens qui vivent dans un milieu qui est quand même assez difficile ici, hein, c'est un pays qui est quand même aride, enfin, des conditions de vie assez dures, on peut imaginer que les rapports sont peut-être plus forts ou plus intenses, plus développés que ce qu'on peut avoir dans nos sociétés modernes. Et donc j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous avez constaté une différence fondamentale, enfin assez importante, au niveau des rapports humains, entre leur société et la nôtre?
Oui, là-bas, on pense collectif avant tout. La part d'individualité de chacun commence à se développer, mais c'est quelque chose de récent. Et puis, ce qui est très différent, c'est qu'il y a quand même peu de distractions là-bas. On va dire, il n'y a pas la télé, il n'y a pas l'électricité, il y a rarement la radio, enfin, très rarement la radio. Mais c'est vrai que ça leur donne une disponibilité au présent, à l'autre aussi, qui fait que chacun a sa place, même l'idiot du village, même celui qui pose 50 fois la même question idiote, il y aura toujours quelqu'un pour prendre le temps de lui répondre. Notamment en réunion, moi je suis toujours touchée par le fait que personne ne coupe la parole à quelqu'un d'autre, même s'il y en a un qui se répète, qui délire, qui dit n'importe quoi, il pourra parler pendant 2 heures et tout le monde va l'écouter.
Ah oui.
Et je me souviens d'une fois où il y a eu une série de réunions parce qu'il y en avait un qui se plaignait, que d'autres lui avaient piqué son âne. Et, bon, il était de mauvaise foi, c'était flagrant, il embêtait tout le monde. Mais la communauté a pris une semaine pour l'écouter, pour trouver un compromis, pour qu'il ne reste pas dans une frustration. Et il y a cet espace-là. Il y a cet espace-là pour chacun.
Chemin de pensée avec les neveux de René.
Alors justement, vous parliez du rapport au temps, enfin du temps qu'ils ont. Et du coup, comment vous définiriez leur rapport au temps? Déjà, est-ce qu'ils ont beaucoup de temps libre ou pas? Parce que bon, j'imagine qu'il faut quand même qu'ils s'occupent de leur subsistance. Et quand ils ont du temps libre, quelles sont leurs occupations finalement?
Je ne crois pas qu'en fait la notion de temps libre se pose comme ça pour les Himba. Ils vivent, c'est tout. Et il y a des choses à faire, mais il n'y a pas vraiment de frontières entre le travail, le temps libre, le loisir.
C'est intéressant parce que c'est quand même assez différent de notre vie à nous qui est quand même très compartimentée souvent.
Alors il y a eu une étude faite par des neuropsychiatres il y a quelques années. Neuropsychiatres qui ont étudié plusieurs populations partout dans le monde, des Londoniens, des Bretons, des Aborigènes, des Papous, des New-Yorkais, et des Himba. Et en fait, de toutes les populations étudiées, certains Himba étaient les seuls à présenter des caractéristiques différentes. Qui était que, en fait, ils avaient une capacité de concentration extrêmement supérieure à tous les autres et une incapacité aux multitâches extrêmement inférieure à tous les autres. Et en fait, ils ont découvert que les Himba, il suffisait qu'ils soient allés 2 fois à la ville pour que cette capacité de concentration disparaisse. Et c'est vrai qu'un Himba qui vit dans son campement reculé depuis toujours, en fin de compte, il y a assez peu d'informations à traiter. Le matin, on se lève, on allume le feu, on va traire les vaches, les chèvres, on dit bonjour aux autres, on parle un petit peu, on va emmener les vaches au pâturage, on revient, on les traite, voilà. Il n'y a pas de panneau publicitaire, on va rencontrer 2-3 personnes dans la journée, il n'y a pas de téléphone auquel il faut répondre, et c'est toujours, tous les jours la même chose. Et donc oui, ils ont une capacité à être dans le présent, dans ce qu'ils font. Et ben voilà, il paraît qu'au bout de 2 fois... qui vont à la ville, cette capacité-là à être dans le présent disparaît. Et c'est vrai qu'à la ville, même la petite ville au Pou, hein, c'est une ville rikiki, mais ça veut dire qu'il faut regarder à droite et à gauche avant de traverser, que potentiellement il peut y avoir plein de gens qu'on connaît, qu'on ne connaît pas, qui sait, toutes les questions que ça pose, les magasins.
L'attention est tout le temps sollicitée.
Ouais, ouais, ouais.
C'est très intéressant ce que vous dites, parce qu'on a l'impression d'une certaine façon que c'est un peu comme les gens qui pratiquent beaucoup la méditation.
Tout à fait.
Et c'est un peu comme s'ils faisaient ça en continu, quoi, d'une certaine manière.
Pour ceux qui vivent dans
oui.
un campement reculé
oui, ça,
et
oui.
qui sont peu sollicités comme cela. Oui, c'est un mode de vie qui... Chez les Himba, on est vraiment dans le minimalisme. Il y a peu de gens au monde qui, de par leur mode de vie, ont aussi peu de choses. Ça, c'est parce qu'ils sont semi-nomades, hein, mais ils ont leur bétail et ce qu'ils portent sur eux. Leurs habits, leurs bijoux, et c'est tout, quoi.
Alors, justement, vous qui connaissez évidemment très bien les Himba, est-ce que, par rapport aux échanges que vous avez pu avoir avec eux, comment ils perçoivent les éléments qu'ils peuvent voir de notre société? Quel regard ils ont sur cette société? Ils commencent peut-être à les englober un peu.
Ah ben, ils la connaissent très mal. Ils la connaissent très mal, et ils n'ont pas forcément très envie de la connaître. Alors, je pense que ça commence, pour certains commencent à devenir curieux, à regretter que quand des touristes viennent les voir, ben voilà, c'est toujours les touristes qui posent des questions et qu'en fait, eux, les Himba, n'ont pas le temps de poser des questions aux touristes. Il y a des frustrations comme ça qui commencent à arriver, mais c'est assez récent. Donc, qu'est-ce qu'ils voient de notre société? En général, c'est des 4x4 de touristes chargés à bloc qui passent en vitesse. Donc, ils sont persuadés que tous les Blancs sont riches, que tous les Blancs ont leur propre avion, puisqu'ils voient souvent des touristes arriver par avion, avec des petits avions. Après, ils se posent beaucoup de questions. Dans la BD, justement, on en parle. Les Imba, quand ils voient des touristes arriver dans un village, d'abord, ils les regardent, ils les observent. Ils sont toujours très étonnés par les hommes au gros ventre. Voilà. Est-ce qu'ils sont enceintes? Est-ce qu'ils ne sont pas enceintes? Est-ce que les Blancs ont réussi à mettre les hommes enceintes? Et puis, ils sont très étonnés aussi par l'incapacité des Blancs, en fait, à communiquer, à échanger.
Ouais.
Parce qu'eux savent aujourd'hui dire bonjour, en général, en anglais, en deux, trois langues. Et puis, même si on ne se comprend pas, le fait quand même de parler, c'est déjà une relation à l'autre. Voilà. Et il y a des touristes qui arrivent sans même dire bonjour. Et les Mba, là, se posent beaucoup de questions, mais... Ils nous envoient leurs malades, mais nous, nos malades, on les garde avec nous, on ne les envoie pas dans les pays d'à côté.
C'est sûr que le contraste, évidemment, en plus, ils voient une partie de la population qui est vraiment particulière. En plus.
Oui, parce que comme la Namibie est un pays cher, en fait, c'est vrai que ce n'est pas non plus n'importe quel touriste qui vont là-bas.
Et alors, ce qui est intéressant, c'est ce que vous disiez sur le fait que ils n'ont pas l'air trop intéressés par cette société, ce qui est assez rare, j'ai l'impression. Il y a beaucoup d'autres peuples qui ont été finalement absorbés un peu par notre société. Et ça, alors, c'est vraiment... j'ai l'impression que c'est assez particulier. Et du coup, comment on peut expliquer cette résistance, à votre avis?
Alors, d'abord, c'est pas qu'ils sont pas intéressés par la modernité, ils sont pas très intéressés par le monde des Blancs qui n'est pas le leur. Mais les Noirs, les Namibiens, qui ont accès à des choses de la modernité auxquelles eux n'ont pas forcément accès, ça les intéresse, oui. Les jeunes qui vont à la ville, qui reviennent avec des petites vidéos sur leur téléphone portable, oui, ça intéresse les jeunes. Mais bon, mais cela dit... En comparaison avec plein d'autres sociétés, pas plus que ça. Moi, j'ai jamais entendu un Imba regretter le fait qu'ils aient pas d'électricité. Regretter qu'ils aient pas la télé. La plupart des Imba ne connaissent pas encore la télé, d'ailleurs. Donc oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, ils restent encore très, très ancrés dans leur tradition. Et ce qui est intéressant, c'est que même quand ils se saisissent des outils de la modernité, par exemple, comme le téléphone portable, très souvent, en fait... La première utilisation qu'ils en font, c'est quelque part pour mettre en avant la tradition. Les téléphones portables, alors certes, ils s'appellent avec, mais l'essentiel du temps de batterie des téléphones passe à enregistrer un tel ou un tel qui chante des chants traditionnels. Et comme ça, après, quand ils iront dans le village d'à côté, ils feront écouter la voix d'un tel qui a chanté tel chant, et il sera... Du coup, presque avec les autres autour du feu, et voilà. Et moi, je remarque que c'est quelque chose, j'ai l'impression, de très occidental, en fait, d'opposer tradition et modernité. Chez les Imba, ils se posent même pas la question, l'un va avec l'autre, enfin, ce n'est pas du tout contradictoire.
Oui, ils prennent des outils, des intérêts, qui leur rendent la vie un peu plus facile, puis c'est tout, quoi, ça s'arrête, en fait.
Tout à fait, tout à fait. Par exemple, ça, il y a déjà plusieurs années, plusieurs de mes copines Imba, donc, avaient un téléphone portable. Elles ne savent pas lire et écrire, mais elles savent, voilà, quand elles demandent le numéro de téléphone de quelqu'un, elles le prennent en photo, elles mettent le numéro de téléphone en face, comme ça elles se sont constituées leur répertoire, elles savaient mieux utiliser leur téléphone portable que moi. Alors pourquoi les Imba sont restés si ancrés dans leur tradition, cette capacité de résistance presque vis-à-vis de l'envahisseur occidental ou mondialiste? Alors, il y a plusieurs explications. D'abord, il y a leur histoire qui a fait d'eux vraiment des résistants parce qu'ils viennent de loin. Je sais qu'au 19e siècle, les premiers explorateurs qui sont arrivés dans la région n'en revenaient pas qu'on puisse vivre dans cette région-là, si aride, si sèche, et en plus avec d'énormes troupeaux. Les Himba, lors des derniers siècles, d'autres ethnies leur ont volé leur bétail à plusieurs reprises. À chaque fois, ils ont reconstitué leur troupeau, leur cheptel. Il y a eu aussi des sécheresses à répétition. Voilà. Il y a eu l'histoire, d'abord les Anglais, ensuite les Allemands, avec quand même le premier génocide du siècle en 1904 sur les Héros, donc les Himba, ce sont les mêmes, hein. Ensuite, l'Afrique du Sud, l'apartheid, voilà, donc,
Oui, une histoire assez mouvementée, finalement.
voilà, dans lequel ils ont toujours été dans une posture de résistants. Ouais. Et puis ensuite, bah, il y a leur culture même, et ce qui est vraiment au centre de leur culture, c'est le culte des ancêtres. En fait, les Himba, donc, ont une conception d'un dieu créateur de tout, qui s'appelle Djambé Mukuru. Mais ils n'ont pas le droit de discuter directement, d'être en relation. Enfin, c'est pas qu'ils n'ont pas le droit, c'est qu'ils ne peuvent pas être en relation directement avec Djambé Mukuru. Et donc, pour être mis en relation avec lui, il faut passer par l'intermédiaire des ancêtres décédés. Et de la même manière, l'esprit des ancêtres morts, ils ont besoin, en fait, que les vivants pensent à eux, les honorent. Pour pouvoir rejoindre Djambé Mukuru, le grand tout. Donc il y a une espèce comme ça de verticalité qui fait que les morts ont besoin des vivants et vice-versa pour être mis en relation, pour être en lien avec l'ensemble de la création, quoi. Parce
D'accord.
que Djambé Mukuru, c'est ça, c'est celui qui vous relie à tout. Voilà. Et donc, si les vivants s'opposent à ce qu'ont légué les ancêtres, eh bien ça coupe ce lien. Et donc on est coupé, ben, non seulement de la lignée d'ancêtres, mais aussi du grand créateur. Et du coup, on ne peut plus vivre, c'est pas possible. Donc c'est vrai que ça, c'est quelque chose de très très important. Chez nous, un jeune qui est en opposition avec ses parents, il est en opposition avec ses parents, pas forcément avec la société tout entière, ni forcément avec l'ensemble de ce qu'on peut considérer comme spirituel
Oui,
ou
c'est ça, de son être, de
avec l'ensemble de l'univers, je dirais.
oui.
Chez les Himba, si, donc on n'est pas si facilement que ça en opposition avec ses parents. C'est très 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 lourd.
J'avais pas perçu ça, le double lien entre, d'une part, effectivement, la lignée avec les ancêtres, donc pour les vivants, mais aussi le fait d'honorer les morts pour que les morts puissent, eux, avoir accès à la divinité.
Oui, c'est pour ça que pour les Himba, un Himba sans descendant, en fait, on lui confiera très peu de responsabilités, parce que c'est pas quelqu'un de fiable. Son esprit aussi sera en difficulté plus tard.
Chemin de pensée sur RCF.
Voilà, donc la première partie de l'interview de Solène Bardet, que je remercie à nouveau pour cette discussion, qui vous aura peut-être permis de mieux connaître le peuple Himba et de mieux comprendre aussi son attachement fort à ses traditions. Nous nous retrouverons très vite pour la suite de l'interview, dans laquelle nous aborderons plusieurs questions philosophiques en rapport avec ce peuple. Et donc en attendant, au revoir et bonne méditation philosophique.